Chapitre 2. Sur quoi méditer? L'objet de la méditation est l'esprit. Pour le moment, il est à la fois confus, agité, rebelle, et soumis à d'innombrables conditionnements et automatismes. La méditation n'a pas pour but de le briser, ni de l'anesthésier, mais de le rendre libre, clair et équilibré. D'après le bouddhisme, l'esprit n'est pas une entité, mais un flot dynamique d'expérience, une succession d'instants de conscience. Ces expériences sont souvent marquées par la confusion et la souffrance, mais elles peuvent aussi être vécues dans un état spacieux de clarté et de liberté intérieure. Nous savons bien, comme nous le rappelle un maître tibétain contemporain, Jigme Khyentse Rinpoche, que nous n'avons aucunement besoin d'entraîner notre esprit pour qu'il soit plus facilement contrarié ou jaloux. Nous n'avons vraiment pas besoin d'un accélérateur de colère ou d'un amplificateur d'amour-propre. En revanche, l'entraînement de l'esprit est crucial si nous voulons affiner notre attention, développer notre équilibre émotionnel et notre paix intérieure et cultiver le dévouement au bien d'autrui. Nous avons en nous-mêmes le potentiel nécessaire pour faire fructifier ces qualités. Mais celles-ci ne se développeront pas d'elles-mêmes du simple fait de le vouloir. Elles nécessitent un entraînement. Or, tout entraînement, comme nous l'avons déjà remarqué, demande de la persévérance et de l'enthousiasme. On n'apprend pas à skier en s'y exerçant une ou deux minutes par mois. Affiner l'attention et la pleine conscience. Galilée a découvert les anneaux de Saturne, après avoir fabriqué une lunette astronomique suffisamment lumineuse et puissante qu'il a ensuite placée sur un support stable. Cette découverte n'aurait pas été possible si son instrument avait été défectueux ou s'il l'avait tenu d'une main tremblante. De la même façon, si nous voulons observer les mécanismes les plus subtils du fonctionnement de notre esprit, et agir sur eux, nous devons absolument affiner notre pouvoir d'introspection. À cette fin, il nous faut parfaitement aiguiser notre attention de façon à ce qu'elle devienne stable et claire. Nous pourrons alors observer le fonctionnement de notre esprit, la façon dont il perçoit le monde et comprendre l'enchaînement des pensées. Enfin, nous serons en mesure d'affiner davantage la perception de notre esprit pour discerner l'aspect le plus fondamental de la conscience, un état parfaitement lucide et éveillé qui est toujours là, même en l'absence de construction mentale. Ce que la méditation n'est pas. On reproche parfois aux pratiquants de la méditation d'être trop centrés sur eux-mêmes, de se complaire dans une certaine introspection égocentrique au lieu de s'occuper des autres. On ne peut pourtant pas traiter d'égoïste une démarche qui a pour but d'éradiquer l'obsession de soi et de cultiver l'altruisme. Cela reviendrait à reprocher à un futur médecin de passer des années à étudier la médecine. Il existe de nombreux clichés concernant la méditation. Disons d'emblée qu'elle ne consiste ni à faire le vide dans son esprit en bloquant les pensées, ce qui est d'ailleurs impossible, ni à engager l'esprit dans des cogitations sans fin pour analyser le passé ou anticiper l'avenir. Elle ne se réduit pas non plus à un simple processus de relaxation dans lequel les conflits intérieurs sont momentanément suspendus dans un état de conscience indifférencié. Il y a certes un élément de relaxation dans la méditation, mais il s'agit plutôt du soulagement qui accompagne le lâcher-prise, sur les espoirs et les craintes, sur les attachements et les caprices de l'ego qui ne cessent de nourrir nos conflits intérieurs. Une maîtrise qui libère. La façon de gérer les pensées, nous le verrons, ne consiste ni à les bloquer ni à les nourrir indéfiniment, mais à les laisser survenir et se dissoudre d'elles-mêmes dans le champ de la pleine conscience, de sorte qu'elles n'envahissent pas notre esprit. La méditation consiste plus exactement à prendre le contrôle de son esprit, à se familiariser avec une nouvelle compréhension du monde, et à cultiver une manière d'être qui n'est plus soumise à nos schémas de pensée habituels. Elle débute souvent par une démarche analytique et se poursuit par la contemplation et la transformation intérieure. Être libre, c'est être maître de soi-même. Ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête, mais s'émanciper de la contrainte des afflictions qui dominent l'esprit et l'obscurcissent. C'est prendre sa vie en main, au lieu de l'abandonner aux tendances forgées par l'habitude et la confusion mentale. Ce n'est pas lâcher la barre, laisser les voiles flotter au vent et le bateau partir à la dérive, mais au contraire, barrer en mettant le cap vers la destination choisie, celle qu'on sait être la plus souhaitable pour soi-même et pour les autres. Au cœur de la réalité. La compréhension dont il s'agit ici consiste en une vision plus claire de la réalité. La méditation n'est pas un moyen d'échapper à la réalité, comme on le lui reproche parfois. Elle a au contraire pour but de nous faire voir la réalité telle qu'elle est, au plus près de ce que nous vivons, de démasquer les causes profondes de la souffrance, et de dissiper la confusion mentale qui nous incite à chercher le bonheur là où il ne se trouve pas. Pour parvenir à la juste vision des choses, on médite, par exemple, sur l'interdépendance de tous les phénomènes, sur leur caractère transitoire, et sur la non-existence de l'ego perçu comme une entité solide et autonome à laquelle on s'identifie. Ces méditations s'appuient également sur l'expérience acquise par des générations de contemplatifs qui ont consacré leur vie à observer les mécanismes de la pensée et la nature de la conscience et qui ont ensuite enseigné un grand nombre de méthodes empiriques permettant de développer la clarté mentale, la vigilance, la liberté intérieure ou encore l'amour et la compassion. Il est néanmoins indispensable de constater par soi-même la valeur de ces méthodes et de vérifier la validité des conclusions auxquelles ces sages sont parvenus. Cette vérification n'est pas une simple démarche intellectuelle. Il faut redécouvrir ces conclusions puis les intégrer au plus profond de soi par un long processus de familiarisation. Cette démarche doit faire appel à la détermination, l'enthousiasme et la persévérance, ce que Shantideva appelle la joie de faire ce qui est bénéfique. On commence donc par observer et comprendre comment les pensées s'enchaînent et engendrent tout un monde d'émotions, de joie et de souffrance. On pénètre ensuite derrière l'écran des pensées pour appréhender la composante fondamentale de la conscience, la faculté cognitive première au sein de laquelle toutes les pensées et tous les autres phénomènes mentaux surgissent. Libérer le singe de l'esprit. Pour mener à bien cette tâche, il faut commencer par calmer son esprit turbulent. On compare l'esprit à un singe captif, qui s'agite tant et si bien qu'il s'entrave lui-même et se trouve incapable de défaire ses propres chaînes. Du tourbillon des pensées surgissent d'abord les émotions, puis les humeurs et le comportement, et à la longue, les habitudes et les traits de caractère. Tout ce qui se manifeste ainsi spontanément ne produit pas en soi de bons résultats, pas plus que semer des graines à tout vent ne fait pousser de bonnes récoltes. Il faut donc avant tout maîtriser l'esprit à l'image du paysan qui prépare sa terre pour y jeter des semences. Si l'on considère sincèrement les bienfaits que l'on recueille lorsqu'on fait une nouvelle expérience du monde à chaque instant de son existence, il ne semble pas excessif de passer ne serait-ce que 20 minutes par jour à mieux connaître son esprit et à l'entraîner. Le fruit de la méditation est ce que l'on pourrait appeler une manière d'être optimale ou un bonheur authentique. Ce bonheur-là n'est pas constitué d'une succession de sensations et d'émotions plaisantes. C'est le sentiment profond d'avoir réalisé de la meilleure des façons le potentiel de connaissance et d'accomplissement qui se trouve en soi. L'aventure en vaut la peine.